Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot, une émission qui connaît son ballon rond, qui sait ce qui est essentiel en matière de football. Pour composer une belle équipe, il faut, sachez-le, de grands joueurs, bien sûr, mais aussi un certain sens de l'équilibre. Alors Cristiano était à l'honneur hier, Messi est donc à la une aujourd'hui, comme ça tous nos auditeurs sont satisfaits. La Pulga, auteur d'un récital ce mardi en championnat contre Valladolid, l'Argentin, à mon avis, il a écouté Radio Foot et il a eu envie de réagir. Voilà mon avis sur la question. Qu'il se rassure, nous dirons probablement beaucoup de bien de lui dans quelques instants. Le sens du talent, le sens de l'équilibre également pour composer le plateau de Radio Foot aujourd'hui. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour, venir après Messi c'est trop pour moi là.
Et vous direz du bien de lui tout à l'heure.
Ah oui,
vous direz même
là.
Qu'il mérite le ballon d'or.
Ça peut-être pas.
J'en étais sûr. Bonjour Chérif Guémoin.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Salut, Franck Simon.
Salut Hugo.
Un match à huis clos, un autre avec sursis, 85 000 euros d'amende. Alors là, on redevient sérieux. C'est une sanction prononcée par l'UEFA à l'encontre de la Bulgarie. Une sanction, mais est-elle à la hauteur des faits de ces incidents racistes qui ont pollué, le mot est faible, bien faible, le match de la Bulgarie donc face à l'Angleterre le 14 octobre dernier. Impossible de ne pas vous faire réagir à cette actualité, messieurs. Heureusement, il y a des actualités, des informations bien plus positives. Cette nouvelle interview accordée par Samuel Eto'o à un grand média français, par exemple, après RFI il y a quelques semaines, l'immense attaquant camerounais, ex-attaquant plutôt, néo-retraité, s'est confié à l'agence France Presse. Il persiste et signe le meilleur joueur africain de l'histoire. C'est lui, c'est bien lui. Fils n'a jamais brillé par sa modestie, au contraire de Pierre-Olivier Guérin et de Laurent Salerno qui, dans l'ombre, m'ont aidé à préparer cette émission aujourd'hui.
Messi, la passe de Messi, le golazo d'Arturo Vidal, coup franc de Léo Messi, il marque encore sur coup de pied arrêté, il finit lui aussi par en sourire. L'enchaînement de Messi et sa patasso de Léo Messi. La passe de Messi, Suarez,
ah oui,
la manita,
ah oui,
sur une passe de Lionel Messi, 5-1 pour le FC Barcelone.
Du sourire, de la bonne musique. Avant Eto'o, des nouvelles de son ancien club et d'un de ses anciens coéquipiers. Messi, le Barça, ça doit vous dire quelque chose, j'en suis sûr. 11e journée de Liga, doublé au Camp Nou face à Valladolid pour l'Argentin, moteur également de deux passes décisives. Succès 5-1 de l'actuel leader du championnat espagnol. Voilà, les faits sont posés. On peut accueillir François David en direct de Barcelone. Bonjour François.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Je passe vite hein, sur les chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a assisté peut-être au premier grand récital de Lionel Messi cette saison. On rappelle que son début de saison avait été tronqué en raison de son état de santé, hein, de blessures tout simplement. Il avait déjà marqué, déjà délivré des passes décisives, mais le premier récital de la saison, c'était hier.
Eh ben c'était hier, ouais, effectivement. Alors c'était contre Valladolid. Alors Valladolid, c'est vrai que c'est resté une phrase célèbre. Le PSG, c'est pas Valladolid, c'est pas Gijón, mais Valladolid, c'était une bonne équipe cette année en Liga. Ils avaient fait match nul contre le Real Madrid, notamment au Stade Bernabéu. Et hier, ils ont complètement explosé, surtout en première mi-temps, grâce au premier récital, vous l'avez dit, Hugo, de l'Argentin. C'était fabuleux, hein, hier au Camp Nou, de revoir Messi en pleine possession de ses moyens. Il avait été limité en début de saison. Pas une blessure au pied, il n'avait pas fait une bonne préparation, il fallait qu'il reprenne le rythme. Il a 32 ans déjà, Messi, mais hier c'était absolument fantastique. Alors il a encore marqué sur coup franc, il y a une statistique incroyable. Hugo, il a marqué 20 fois sur coup franc ces 5 dernières saisons, c'est plus que n'importe quelle équipe européenne. La Juventus de Turin, par exemple, en a marqué 15 sur les 5 dernières saisons, mais si à lui seul, on a marqué 20. Et hier, il a complètement fait exploser la défense de Valladolid et surtout, il se replace, vous l'avez dit en préambule, par rapport à cette course au Ballon d'Or. Eh bien, Ronaldo a fait une interview dans France Football le mardi. Alors, état d'alerte en Espagne. Si Ronaldo donne une interview à France Football, c'est qu'il l'a. Eh bien, Messi, il a... Il a remis un petit peu les compteurs à zéro, les points sur les i. Alors, je crois que la date limite pour les votes pour le Ballon d'Or, c'est le 9 novembre. C'était en tout cas le cas l'an passé. Dommage pour le Classico, parce que là, il aurait pu peut-être effectivement marquer les esprits face au Real Madrid. Mais hier, c'était absolument incroyable. Hein. Deux buts, deux passes décisives. Et en Liga, Il en est à donc 5 matchs en Liga, 4 buts et 4 passes. Et depuis qu'il est titulaire, le Barça n'a jamais perdu, il a tout gagné. Donc c'est plus que jamais l'arme fatale du FC Barcelone.
Oui, Messi qui a vraiment débuté sa saison mi-septembre à l'occasion d'un match de Ligue des Champions contre Dortmund. Avant, il y a eu les blessures sur le Ballon d'Or, Franck Simon. Vous travaillez à France Football, qui donc est le journal qui délivre le Ballon d'Or.
Je sais tout, mais je ne vous donnerai pas le classement. Non, j'ai déjà le classement final.
Ne nous donnez pas le classement.
Évidemment,
ménagez le suspense.
Avant même les votes, c'est
avant,
beau ça.
Avant les votes et avant, la grande presse espagnole, j'ai déjà tout et je ne vous dirai rien. C'est dans ma poche là. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me fouiller.
Vous n'êtes pas gentil. Juste pour confirmer,
mais ça, c'est vrai, je suis pas gentil.
La campagne, elle est en cours. C'est-à-dire que le moment des votes, on est en plein dedans.
Oui, en fait, ça a commencé par l'annonce lundi passé. Donc là, on est à J+9. Et voilà, la période en fait de vote a été raccourcie effectivement par rapport à l'an dernier. On s'était lancé un peu dans l'aventure BO 2018 beaucoup plus tôt. Ça a été retardé cette année et il y a à peu près 3 semaines pour voter. Sachez qu'on met la pression vraiment sur les votants. Quand je dis la pression, c'est pas une pression pour qu'ils votent pour tel ou tel joueur,
mais
pour qu'ils ne tardent pas. C'est pas parce que Monsieur Messi a fait un récital contre Valladolid, parce que Valladolid, c'est pas le PSG.
Ah, pour qu'ils ne tardent pas et qu'ils ne soient pas influencés par des performances trop récentes?
Non, c'est qu'ils ne tardent pas, tout simplement. Le plus tôt et le mieux. On leur dit, vous recevez dans les heures qui suivent, en fait, le début de, enfin, l'annonce des listes, puisqu'il y a plusieurs listes, plusieurs trophées, pas que le Ballon d'Or, désormais. Et donc, bah, c'est à vous, maintenant, de voter. Vous ne prenez pas trop de temps. On a vu l'essentiel de, la quintessence, a priori, des grands joueurs qui font partie de cette liste. Donc, on leur laisse, ils ont une bonne quinzaine. Et après, on commence à leur dire, bah, écoutez, ça serait bien de, et on leur dit, bah, voilà, on en est à tant de votes reçu. Mais après, ils votent pour qui ils veulent et c'est honnêtement, de vous à moi, c'est pas le problème.
C'est quand même très intéressant d'avoir les coulisses. 30 journalistes issus de
pardon
30 pays. Combien de journalistes?
30 journalistes.
Non, plus 30 nommés. Et un journaliste par pays, c'est ça?
Un journaliste par pays, en tout cas, il y en a 54 pour l'Afrique. Puisque ça c'est, vous savez que je l'ai déjà expliqué ici en fait, hein, j'essaye vraiment de faire en sorte que chaque fraternité sportive africaine ait son représentant. Et donc de ce point de vue-là, tous les pays sont représentés. Maintenant, après, pour le reste, effectivement, toutes les grandes nations sont présentes, y compris il y a certains États confettis, mais qui ont un football, et eux aussi ont droit à une voix. Voilà, on est très démocratique à France Football.
Voilà pour les coulisses, voilà pour le système. On revient à Messi. François nous a dit beaucoup de choses. François David, c'est vrai que le Ballon d'Or, on l'a forcément dans un coin de la tête quand on pense à Ronaldo hier, quand on pense à Messi aujourd'hui. Gilles Verdez, il marque des points. Soulier d'or pour la 3e année consécutive. The best, selon la FIFA, Lionel Messi. Et c'est vrai que son nom revient parmi les favoris du prochain Ballon d'Or.
Alors, ce qu'il a fait hier, ça me rappelle ce qu'a fait Van Basten en 1992. Pas favori et 2 quadruplés de suite contre Göteborg et contre Naples. Un en Ligue des Champions et un en Coupe des Champions et un en Serie A qui lui avait offert le Ballon d'Or. Il y avait le précédent aussi face à Stoïkov qui avait gagné effectivement la Ligue des Champions.
Il croyait l'avoir gagné
avec Barcelone et
mais
qui dit-on a pleuré.
On pensait même à l'époque que c'était.
Bien sûr.
On était tous en se disant ça serait extraordinaire que ce soit Stoïkov.
Et oui, et il paraît qu'il a pleuré quand. C'est la légende quand Van Basten a inscrit son quadruplé fameux à Göteborg. Avant, il y avait eu Keegan face à Krankel, ça remonte. Donc il y a des moments où vous gagnez, oui, le Ballon d'Or ou Ronaldo en 2013.
Mais pas sur un match, Gilles, sur un match contre Valladolid, certainement pas.
Non, mais sur un exploit ou sur un symbole. Et les gens peuvent se dire, les votants là, ah mais si quand même, il était blessé mais là quand même, voilà, et ça
vous
peut lui donner des points supplémentaires.
Les 180 et quelques votants ont regardé hier, étaient spécialement sur ce match.
Je pense que les votants
je crois pas.
N'ont pas une dilution du temps telle qu'ils votent sur une année, ils votent sur l'immédiateté. Vous les pressez pour voter, ils votent sur l'immédiateté.
Non, on les presse d'être dans les délais, on les presse pas dans les...
Juste rappeler que c'est vrai qu'on est... On entend souvent autour de cette table que celui qui le mériterait vraiment, ce serait un certain Sadio Mané.
Absolument, voilà. Donc c'était la
fin. Ça intéresse nos auditeurs.
En ce moment, c'est tout sauf Van Dijk. Personne ne veut de Van Dijk, qui pourtant est un protagoniste essentiel et qui peut l'avoir. Personne n'en veut, ni France Football, ni les gens. Et puis ça va faire un bide en vente. Donc voilà. Après, je dis pas qu'il y a de l'influence. Voilà,
pour moi... C'est un petit peu ce que vous dites, sans... vous avez l'air d'avoir des informations qu'à France Foot, on n'a pas.
Non,
hein.
Je dis...
Que vous n'avez pas. Que vous ne voulez pas donner.
Je dis Sadio Mané le mérite, Sadio Mané le mérite pour moi, incontestablement, mais ça va être dur.
François, désolé, on s'est un peu étendu sur le Ballon d'Or, ça fait beaucoup parler, vous le disiez, en Espagne, ce Ballon d'Or. Est-ce que Messi apparaît comme un favori logique, y compris au détriment des joueurs qui ont tant régalé avec Liverpool, Mané ou encore Salah?
Bah, c'est très bien d'ailleurs que Franck soit là en plateau. L'influence Merci. Du Ballon d'Or est incroyable en Espagne. Non mais c'est fou parce que le buzz qu'il y a autour du Ballon d'Or, ça c'est vraiment c'est la récompense. The Best est relégué au troisième rang. C'est le Ballon d'Or. Voilà. Donc effectivement, il y avait eu ce buzz autour de Ronaldo. Là, Messi revient dans la course. Alors je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde hier qui ont regardé ce match-là contre Valladolid.
Est-ce que François, vous avez les statistiques sur nos 190 votants? Vous les avez eu tous? Ils vous ont dit qu'ils étaient devant la télé? J'en suis pas sûr.
Non, mais bon, il y avait pas de grand match hier. Il y avait match de Coupe de la Ligue. Si, il y avait match anglais peut-être en coupe, mais quand le Barça joue, bon, généralement on le regarde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le regardent. Alors ça peut peut-être aussi compter, mais c'est vrai que le Ballon d'Or, ça reste l'institution en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France évidemment. Mais en tout cas, toutes les émissions aujourd'hui, hier soir, ce midi, cet après-midi, ça parle que du Ballon d'Or. Et ce duel à distance entre Ronaldo et Messi, alors je suis d'accord que Sadio Mané est complètement oublié en Espagne. C'est injuste, parce que moi je pense aussi que Mané devrait peut-être postuler, comme Modric l'an passé l'avait eu. Mais c'est vrai que Messi, chaque année...
Il fait partie de la liste, donc il postule. Voilà, après...
Mais chaque année, Messi est un candidat... plus que crédible par son talent. Et là, en plus, là, on se rapproche de la fin. Donc, en Espagne, on voit un duel à distance entre Ronaldo et Messi. Juste, Franck, ça commence quand, en fait ça commençait quand, les votes, et ça se finit quand?
Ça a commencé, en fait, lundi de la semaine dernière, après réception des courriers envoyés à chacun des votants. Donc, on va dire à partir de minuit et une minute, quoi. C'est dès le moment où ils ont reçu le courrier envoyé par la rédaction en chef. Ils ont effectivement quelques semaines pour voter. Donc là, on est à J+9, comme je le disais à l'instant.
On rappelle que ce serait le sixième, s'il venait à l'emporter, ce serait le sixième Ballon d'Or de Messi, record absolu, et ça lui permettrait de passer devant son rival de toujours, Ronaldo, ce qui mettrait peut-être... pas un terme au débat, aux comparaisons, mais ce serait sur le plan du symbole assez fort. Au-delà, Chérif Guémour, de ce match face à Valladolid, hein, qui va pas, à mon avis, être décisif, c'est l'impression d'ensemble, l'impression de maîtrise que renvoie ce Messi-là, peut-être, qui marque autant les esprits, qui en fait toujours un favori pour cette récompense.
Tout à fait. On a le droit. Est-ce qu'on a le droit de dire que Messi, comme Cristiano Ronaldo, c'est des footballeurs à 32, 33, 34 ans passés, ils continuent de progresser. On a parlé des coups francs de Messi. Avant, il les tirait pas. Ça fait maintenant quelques années qu'il les tire. Et c'est devenu l'un des meilleurs tireurs au monde. Donc le gars continue de progresser. J'aime bien le nouveau rôle, le nouveau positionnement, le nouveau registre qui s'est inventé. Derrière les attaquants, un peu un électron libre, passeur décisif, buteur, toujours là où ça se passe. Et pour moi, plus que jamais, alors que moi j'ai critiqué à un moment donné, avec les exagérations qu'il y a eu dans l'attribution des ballons d'or entre Cristiano et Messi sur certaines années, je serais pas choqué qu'il l'ait par exemple cette année, parce que il maintient un niveau de maîtrise et de performance mais hallucinant. J'aimerais bien qu'un jour on s'en rende compte, mais je le dis jamais assez, mais on est en train de vivre la période de Messi-Ronaldo. C'est l'âge d'or du football à un certain niveau, avec des joueurs tout à fait hors normes. Je rappelle que pour la Ligue des Champions, l'année dernière, en demi-finale contre Liverpool, à l'aller, Messi fait le boulot. Il marque les buts, il qualifie le Barça. Le Barça est en finale. Match retour, il s'écroule, mais c'est pas de la faute de Messi. Messi, il a assuré l'essentiel de ce qu'il devait assurer en tant que très grand joueur au match aller. Voilà, on pardonnera, c'est juste une demi-finale. Mais aujourd'hui, ça reste plus que jamais l'un des candidats. Moi, pour moi, c'est mon favori. Je verrai Van Dijk et Messi. Malheureusement pour Salah et Mané, c'est pas encore le bon moment. Peut-être cette année, il faut regagner la Ligue des Champions et dépasser les 30 buts.
Ça paraît quand même un peu fou. Hein. Je suis même que ce ne soit pas le bon moment après une telle saison,
Gilles Verdez. Je suis d'accord avec tout le début de l'analyse de Chérif sur Messi. En plus, il porte son club qui, honnêtement, est moins fort. Son équipe, elle est quand même moins forte à certains postes qu'avant. Et lui,
on va y revenir.
Absolument.
Parce que...
Alors, d'accord. Donc, Messi est plus fort. Mais si ce n'est pas l'année, cette année, pour Sadio Mané, ce ne sera jamais plus l'année pour un footballeur africain. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Mais il a tout gagné. Il a tout gagné, ou presque, quand il a pas gagné, il a fait finale.
Il a porté équipe nationale et club.
Mais les deux. Alors, si le palmarès reste un critère emblématique, ça doit être lui. J'adore Messi, mais si c'est pas Sadio Mané, il faut vraiment se poser des questions sur la représentativité du Ballon d'Or. Est-il encore électif du meilleur footballeur du monde,
oui,
ou du meilleur footballeur européen, ou du meilleur footballeur qui joue en Europe et peut-être qui a une couleur qui n'est pas une couleur noire. Il faudra se poser la question.
Non,
il y aura
des critères tomber, qui ne faut pas mais, tomber mais, dans ces excès-là, Gilles.
Ben, alors, ne pas faire de procès d'intention.
Non, faut pas faire des procès d'intention.
Vous me permettez
comme ça.
De donner mon opinion. Oui, bien sûr. Si Sadio Mané l'a pas, ce ne sera pas sur des critères footballistiques. Donc, quel autre critère?
Je vous rappelle que la finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas un trophée, c'est pas un palmarès. Remporter une Coupe d'Afrique des Nations comme Riyad Mahrez l'a fait, ça s'inscrit dans le palmarès. Une finale n'est pas dans un palmarès.
Mais Messi ne va même pas en finale de la Copa América.
Messi n'est voilà.
Donc c'est quand même voilà.
Après Gilles sait très bien que si j'avais le pouvoir d'attribuer le Ballon d'Or, et malheureusement c'est pas le cas, je le donnerais évidemment à ce joueur exceptionnel qu'est Sadio Mané. Malheureusement, ni Gilles ni moi ni Chéri ne faisons partie des votants.
François David, le nouveau rôle dont parlait Chérif Guémour, le nouveau rôle de Messi, plus en retrait sur le terrain,
nouveau registre,
vous confirmez?
Après c'est pas nouveau.
C'est une nouvelle évolution. Ça date déjà depuis 3-4 ans. Mais il atteint vraiment la plénitude. C'est un. Il est plus faux numéro 9. Il était dans les années Guardiola, depuis que Luis Suarez est là, mais c'est l'électrolyte total, et on le voit à droite, on le voit à gauche, on le voit au centre, on le voit arriver par surprise en deuxième ligne.
Un peu playmaker, à l'ancienne.
Et il marque en même temps.
Ouais, un peu playmaker à l'ancienne.
C'est ça, exactement. Et il marque. C'est ça, c'est un numéro 10.
Il sait tout faire, quoi.
Comme son numéro.
C'est juste.
Mais il sait tout faire, mais surtout il y a en plus une évolution par rapport à son comportement. Moi, si jamais j'avais un reproche à faire à Messi, c'était de pas être leader. On l'avait vu l'an passé à la demi-finale retour. Je suis d'accord aussi avec Chérif pour dire qu'au match aller, il avait fait le boulot. Il avait marqué aussi un but fantastique contre Liverpool sur coup franc, encore un en demi-finale. Mais au retour, il avait disparu quand les autres joueurs n'avaient pas pris le relais. Et c'est ça aussi le reproche au Barça, c'est que quand Messi ne va pas, il n'y a personne dans l'équipe qui prend le relais et qui assume. On rappelle que Luis Suarez n'a pas marqué un but à l'extérieur en Champions League depuis 4 ans. D'autres joueurs comme Jordi Alba, Piqué, s'étaient complètement écroulés. Mais c'est pas la faute de Messi finalement. Messi, je trouve que là, assume plus, il parle plus.
C'est la faute de qui alors?
Il fait plus d'interviews, il apparaît plus en lui.
C'est la faute de qui? C'est la faute de Valverde qui n'arrive toujours pas à donner une identité, à insuffler une identité de jeu à un Barça qui ne soit pas seulement basé sur Lionel Messi?
Parce qu'on ne remplace pas des Xavi, Iniesta du jour au lendemain. C'est des joueurs qui, eux, prenaient le relais. Il y avait aussi un Busquets qui était plus performant. Donc Messi prend le relais, mais il peut pas le prendre tout seul. C'est un collectif, le Barça.
Franck Simon.
Ouais, la semaine passée, il se trouve que j'étais consultant sur un match de Ligue des Champions, celui du Barça à Prague, et on peut dire que les Blaugrana ont été quand même bien chahutés ce soir-là. On a un Messi déjà, je pense, on avait les prémices de ce qu'il a pu offrir hier. Ouais. C'est-à-dire qu'il est vraiment patron. Il est taulier, il est patron, il assume. Son équipe est quand même super chahutée, super bousculée. Et là, il est là, lui, pour marquer ce premier but. Et derrière, pour les aider, les faire sortir de ce piège de tchèque. Et ils y sont parvenus parce qu'il était leader.
Le problème, c'est que c'est l'absence de plan B, en fait, Gilles Verdez. Si Messi va, tout va. Et si Messi va moins bien... Qu'est-ce qui se passe derrière?
Et le plan B devient vital parce que Messi ne va pas bien tout le temps. Ça, c'est sa petite faiblesse. C'est-à-dire qu'il a eu des blessures. Il est pas au top toute une saison. Alors qu'avant, il y avait de la continuité. Voilà. Donc ça, c'est plus difficile. Et c'est vrai que moi, ce que je reproche à Valverde, c'est de pas avoir de plan B, mais surtout d'être le roi du déséquilibre. Son Barça n'est pas équilibré. Défensivement, il y a des trous. 11 buts encaissés en 10 matchs. 2 défaites. C'est trop. L'Atlético n'en a encaissé que 6. Donc oui, il y a du régal en attaque, mais défensivement, ce Barcelone-là n'est pas armé pour être sur le toit de l'Europe et peut-être même pas sur le toit de l'Espagne.
François, c'est Ter Stegen qui les sauve avec les arrêts, mais il va pas pouvoir les sauver à tous les coups non plus.
François, et d'ailleurs il est pas exempt de tout reproche sur le seul but encaissé par Barcelone hier. Ter Stegen, François,
il est pas aidé par sa défense non plus.
François David, je vous ai posé une question, je vous ai même pas laissé répondre. Trop dépendant de Messi, c'est ce qu'on entend depuis déjà plusieurs saisons. Trop dépendant de Messi, ce Barça. La réponse, on la connaît.
C'est évident. Quand on a un tel joueur, oui, mais bon, le plan B, et pour éviter justement d'être trop dépendant de Messi, il s'appelle Antoine Griezmann. C'est le plan du Barça quand Messi est moins bien, que Griezmann apparaisse et qu'il marque des buts. C'est ça qu'on attend de lui. C'est pas simple.
Il était où hier, Antoine Griezmann?
Pour Griezmann. Mais Griezmann, on l'a pas signé. Il était sur le banc, il est rentré. Mais on l'attend plus en mars. On l'attend plus en mars, on l'attend plus en avril quand les matchs sont décisifs. Et je pense, moi, que Griezmann a la personnalité le charisme et, le, et la qualité technique pour être ce plan B ou ce relais complémentaire de Messi et Suarez. Et juste une dernière donnée, je pense moi qu'un joueur comme Arturo Vidal, dont on parle jamais mais qui est toujours là, lui il est indispensable aussi pour l'équilibre dont parlait Gilles. Donc Valverde a beaucoup de boulot, mais il a aussi une super équipe. On pense notamment aussi à Frankie De Jong, qui est un joueur extraordinaire qui Absolument. Va s'améliorer encore plus dans les années à venir. Pour moi personnellement, j'ai de bon feeling sur ce Barça là, mais on jugera la saison du Barça sera pas en Liga. Ce sera en Champions League comme tous les ans.
Oui, l'objectif affiché par Lionel Messi lui-même régulièrement. Juste, François-David parlait d'Arturo Vidal, deuxième buteur du Barça hier. Le premier, c'est un Français, Clément Langlais, le défenseur qui, il y a quelques jours, quelques semaines même, nous parlait de Lionel Messi, de ce que c'était de côtoyer Lionel Messi à l'entraînement tous les jours. Clément Langlais.
Quand on est à l'entraînement, s'il est dans une équipe, c'est déjà compliqué de défendre sur lui, mais alors quand il est joker, c'est encore plus dur. Il est très intelligent dans la manière de se positionner, dans la manière de protéger le ballon, donc c'est difficile de lui piquer. Il faut anticiper longtemps à l'avance et encore. Bon, on souffre au quotidien, mais on est content de l'avoir le week-end avec nous, donc c'est le principal.
Ouais, après les coulisses du vote pour le Ballon d'Or dans la rédaction de France Football, on a les coulisses de Messi au sein du Barça. Les coulisses de Messi au sein du Barça, c'est aussi ces bruits qui ont couru sur l'intégration d'Antoine Griezmann et sur la volonté, plutôt la non-volonté de Lionel Messi d'accueillir Antoine Griezmann. On parlait du Français remplaçant face à Séville. Il était revenu lors d'un match de championnat, un but, une passe décisive contre Eibar, je crois, et puis là, de nouveau sur le banc, oui. François David, on s'inquiète un petit peu pour Antoine Griezmann, parce que Lionel Messi est indispensable et qu'il n'y a peut-être pas de place pour le Français. Non, vous n'êtes pas d'accord.
Eh ben, c'est à Griezmann aussi de s'adapter. Il savait très bien où est-ce qu'il signait, hein, qu'il y avait une seule place disponible, c'était sur le côté gauche. Alors, il n'a pas joué sur un côté depuis presque 10 ans, Antoine Griezmann. Enfin, depuis 6-7 ans, depuis qu'il a l'Atletico. Mais il va s'adapter. Comme j'ai dit, on l'attend pas sur ces matchs-là, Griezmann. On l'attend plus tard. Et, on a vu un début de relation avec Luis Suarez et Messi lors de ce fameux match contre Eibar. C'est vrai qu'hier, il aurait pu marquer. Luis Suarez, le voit, mais lui, il sert pas la balle. Il préfère la donner à Messi plutôt qu'à Griezmann. C'était en fin de match. Et bon, il doit encore faire des efforts, mais moi j'ai confiance en Griezmann. C'est vrai que Messi voulait plus Neymar que Griezmann, mais bon, hein, qu'on a quand même Griezmann avec soi, et s'il peut être important en Ligue des Champions, c'est quand même intéressant. Alors, j'avais noté, mon cher Hugo, juste une donnée concernant Messi. Et Cristiano Ronaldo, hier Messi l'a dépassé en club. Il avait marqué 606 buts, Cristiano Ronaldo en club, que ce soit Manchester, au Sporting, au Real Madrid. Et hier Messi l'a dépassé de 2 buts, il en a 608 buts en 695 matchs. Donc en club, simplement avec le Barça.
Je ne sais pas si les chiffres ont encore un sens à ce niveau-là, c'est une bonne performance. C'est vertigineux. Vous vouliez réagir à ce que disait François David. Oui, terminé François. François.
Non mais c'est parce qu'on disait que Ronaldo avait marqué 700 buts, on avait fait tout un...
Oui, on a parlé hier, tout à fait. Oui.
On avait parlé... Voilà, 700 buts, il s'en rapproche fatalement, parce qu'on comptait aussi les buts avec la sélection du Portugal. En club, Messi officiellement l'a dépassé hier grâce à son doublé. Voilà, je vous laisse parler maintenant.
Non, mais c'est une excellente information. Merci François-David. Franck Simon.
Ouais, non, je voulais juste revenir effectivement sur sur Griezmann, Suarez et Messi. Après le match d'Eibar, il y a le fameux match de Ligue des Champions, et on attendait Griezmann. On l'attendait, puisqu'ils avaient tous marqué. Il semblait que c'était le début de quelque chose.
Le match contre Prague.
Ouais. Le début de quelque chose, et en fait, ça a couché d'une souris, hein, contre Prague, et Griezmann est apparu quand même très fatigué, très isolé, et c'est effectivement, et je rejoins François, c'est à lui effectivement de prendre cette place, d'aller la chercher, de pas attendre les autres, parce que ils lui feront pas de, on va dire, de cette place. Ils lui accorderont pas. C'est à lui de la prendre.
Verdez. Sauf que c'est pas sa place. Griezmann n'est pas le plan B, c'est le plan C. Le plan B, c'est Neymar. Donc ce péché originel, ils vont lui faire payer toute la saison. Moi, je l'ai dit d'emblée. Peut-être qu'il réussira, mais il ne voulait pas de lui. Donc vous pouvez me dire, il est bon, il va s'imposer. Mais quand Messi ne veut pas de vous, vous êtes borduré. Donc tant que Messi n'aura pas adoubé Griezmann, et il ne l'adoubera que s'il sait définitivement que Neymar ne va pas venir, là il dira, ben peut-être qu'il faut quand même que j'accepte Griezmann. Sinon il se dira, Griezmann c'est un épiphénomène, ça va durer une saison, je retrouve mon Neymar, donc j'ai pas besoin de l'adopter. Donc c'est extrêmement difficile pour Griezmann.
Il y a un vrai problème, hein. Ça se voit au niveau des regards, des comportements, et puis au niveau de
Mais il l'ignore, façon... il l'ignore, t'as vu, dans le, ouais, dans le, dans non, le lien technique, il l'ignore, des fois.
Y a, alors, donc, soit on se soumet à la Thierry Henry, comme Thierry Henry était arrivé au Barça, et ça lui a pas mal réussi, parce qu'il a gagné des titres, la fameuse année 2009. Voilà. Mais par contre, Thierry Henry a été isolé, qui aimait bien prendre l'axe. Il a été isolé sur le côté gauche. Il a pas moufté. Sauf que Griezmann, comme vient de le dire Gilles, c'est un axial. Il est plutôt derrière les attaquants. En fait, il n'y a pas de place pour les deux. Et quand on voit aussi Suarez, bon c'est, ça peut être aussi le runner de surface en numéro 9, mais il aime bien aussi décrocher un peu. Il y a un embouteillage. Et le truc, maintenant, je pense que la balle est dans le camp de Messi. C'est l'intelligence des très grands joueurs. À partir d'un moment, Messi, il va devoir se poser la question, est-ce que on peut, nous, le Barça, regagner la Ligue des Champions? Mais dans ces cas-là, j'aurais besoin de Griezmann, donc je lui fais plus de place. La balle, elle est pas dans le camp de Griezmann, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour moi, elle est dans le camp de Messi. Soit il l'intègre maintenant, on va avoir besoin du petit français pour gagner la Ligue des Champions, ou alors, comme tu dis, on attend Neymar, comme on attend Godot. Neymar ne viendra pas, comme Godot n'est pas arrivé. Et Messi ne regagnera plus la Ligue
ouais,
des Champions.
Mais il n'a pas le temps d'attendre. Comment Griezmann? Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il est sur le banc, là. Il est déjà borduré. Il va attendre combien de temps? Il va attendre le bon vouloir de Saint-Messi. Ça, c'est pas comme ça.
Mais Griezmann est champion du monde. Absolument. Il n'y a pas de complexe à avoir.
Exactement. C'est là où je te rejoins.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je parle d'intelligence. Ouais. Il y a l'ego et il y a l'intelligence.
Ouais, mais moi, par exemple, c'est ce que j'ai reproché. Cette question. On est en train de supputer qu'il va se la poser, là.
Ah, bah, il se pose forcément des questions, là. C'est sûr, les deux se posent des questions. Mais si se dit, est-ce que je l'adopte? Et Griezmann se dit, qu'est-ce que je fais?
Ouais, là, le temps passe. Je veux dire, la Ligue des Champions, elle va filer ouais, l'année dernière.
C'est pas en faveur de Griezmann, hein. Pas du tout.
Ah, hein. Non.
On est vraiment dans le.
Ah, Messi d'être intelligent. Ouais. Tu gagneras la Ligue des Champions avec Griezmann, pas sans Griezmann.
Vous lui ferez passer le message, François David. La prochaine fois que vous voyez Messi, vous lui faites passer le message de Sheriff Gamour. En tout cas, on vous aura à l'avenir dans Radio Foot, de toute façon, pour suivre les rebondissements de cette telenovela, de ce feuilleton Griezmann, Messi au Barça. Merci en tout cas à vous.
Et le ballon d'or,
François David. Bien sûr. Bah, on verra s'il est pour vous. On verra. Merci en tout cas à François David d'avoir été avec nous dans Radio Foot aujourd'hui.
À très vite,
François. Voilà pour Messi, pour le Barça. Environ une demi-heure pour Ronaldo hier, environ une demi-heure pour Messi aujourd'hui. Je pense que on a été équitable. Difficile, en revanche, de trouver une transition pour ce qui vient, après, pour le sujet suivant.
We've had fears of incidences of racist abuse. They've been widely discussed and debated in the lead-up to the game.
You know what you are. You know what you are.
Bulgarie, Angleterre, le 14 octobre dernier. On a entendu les chants véhéments des supporters des Trois Lions de l'Angleterre, donc à Sofia, contre, je cite, les bâtards de racistes, des chants entonnés, alors que certains des spectateurs bulgares présents et qui étaient chez eux dérapaient tout simplement, cris de singe à l'encontre de Mings, de Rashford ou de Sterling, des joueurs anglais de couleur, comme on dit, des saluts nazis. Le match a été interrompu, la victoire des Anglais 6-0. Importante dans la course à l'Euro 2020, avait été, et c'est assez logique, reléguée au second plan de l'actualité. Les incidents racistes avaient tout emporté, entraînant une vague d'indignation, entraînant le départ du président de la Fédération de football bulgare.
Les excuses
du sélectionneur et effectivement les larmes, les pleurs d'une légende bulgare, Stoïkov.
Decías que te causa lágrimas, te causa tristeza.
Sí, claro. ¿Qué hago?
¿Cuál es la solución?
Hacerán en el campo o más duro, como en Inglaterra hace años, 5 años sin participar, a que sepan una vez por todos que esos drogadictos.
Estás hablando de la selección no con la que jugaste un mundial en el 94,
y con equipos dentro de
a la que le entregaste el corazón. Tiene que haber.
Vous la laissez en version originale, hein, ce coup de gueule de Stoïkov en espagnol, parce qu'il a joué au Barça, il maîtrise la langue de Cervantes. Stoïkov, quelle est la solution? Voilà la question qu'on lui pose. Que les supporters soient interdits de stade, et qu'il y ait des sanctions encore plus fortes. Eh bien, comme en Angleterre, il y a quelques années, il faut une interdiction de 5 années sans aller dans les stades. Les gens ne méritent pas de souffrir. Voilà ce qu'avait dit le Ballon d'Or, l'ancien Ballon d'Or bulgare Stoïkov. Et avant de pleurer, hein, tout simplement, de fondre en larmes en direct à la télévision. Les sanctions sont tombées, donc après ces incidents racistes, elles nous semblent, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elles nous semblent à nous, dans le bureau de Radio Foot, bien clémentes. Un match à huis clos, un autre avec sursis, à l'encontre donc de l'équipe nationale bulgare, la période probatoire pour ce sursis, c'est 2 ans, 85 000 euros d'amende cumulée, 75 000 spécifiquement pour les actes et les incidents racistes. Votre réaction, Franck Simon ?
Un pansement sur une jambe de bois. Voilà. Tout ce que je peux dire. De toute façon, c'est jamais assez dur. Quel que soit le pays, quel que soit le continent, peu importe. Il y a racisme, tolérance zéro. Et donc, la punition, elle doit être exemplaire. Là, elle ne l'est pas. C'est, pour moi, c'est de la symbolique, là. On est dans de la symbolique et on veut pas de ça. On veut pas de la symbolique. On veut quelque chose, comme l'a dit Stoïchkov, frapper fort, frapper, être très dur. Voilà. Servir d'exemple aussi. Encore une fois, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Mais je trouve que c'est pas assez.
Une occasion manquée. Clairement.
Justement, je trouve qu'on n'est pas dans le symbolique. Je suis pas d'accord. On est dans le grand guignol, dans le rien du tout. Alors que les instances avaient promis d'agir, que c'était devenu une sorte de cause emblématique du monde du football dans son intégralité.
Pour lutter, la FIFA notamment.
Pour tout, oui, et pour la FIFA, pour l'UEFA, pour tout le monde, lutter contre le racisme, etc. Et il y a rien. Ces sanctions, elles sont complètement bidons. Alors le problème qu'on a, vous citiez l'Angleterre. L'Angleterre, les interdictions de stade. Il y avait eu le hooliganisme. Il y avait eu une politique de fermeté.
Dans les années 80-90.
Absolument. Vous avez raison, grâce à des lois répressives. Mais là, il n'y a pas d'armes tellement juridiques. Et le problème, c'est que si vous retirez 3 points, 6 points aux Bulgares, ils vont se retourner vers le TAS, qui après va lui s'appuyer sur les textes. Et quels sont les textes qui vont dire que oui, on peut retirer 3, 6 points? Donc il faut changer les textes, parce que sinon, les racines du mal ne seront jamais éradiquées.
Une réaction, celle de Yaya Touré. C'est pas vraiment une réaction aux sanctions, mais Yaya Touré interrogé sur le racisme dans le football par nos confrères de l'agence France Presse. L'Ivoirien, une autre légende, légende ivoirienne, estime que c'est une honte que les Anglais n'aient pas quitté le terrain. Yaya Touré qui s'est également attaqué à la FIFA, qui, je le cite, s'en ficherait. Les gens de la FIFA s'en fichent et de toute façon ils en parlent, mais ça continue. Je n'ai pas envie de dire que je ne suis pas inquiet, je suis inquiet, ça me met en rogne, cher Guillemot.
Non, mais il a raison. Le problème, c'est que pour tout...
Alors là, c'est l'UEFA qui a sanctionné la Bulgarie. Là, lui, il parle de la FIFA. Ouais.
Pour tout ce genre de comportement, toujours avertir, dans un premier temps, toujours. Ça, c'est, on ne va pas décider du jour au lendemain, retirer 3 points, éliminer une équipe, et surtout, frapper sportivement, c'est... Ça me paraît inéquitable. Le problème, c'est que les avertissements se succèdent. Il y a un certain délai avant de sanctionner. Encore une fois, faut pas dépasser la ligne rouge, faut pas dépasser. Et ça fait des années que ça dure. Donc, à partir d'un moment, faut prendre des mesures, des vraies mesures. Sportivement, ça me gêne de pénaliser les équipes. Une équipe ou un club, c'est alors soit on frappe au niveau des supporters, interdiction de stade. Alors c'est 3 ans, 5 ans, à vie, peu importe. Huis clos, mais alors un vrai huis clos, mais pareil pour plusieurs matchs.
Tu les fais jouer hors de chez eux? Tu les fais jouer dans un autre pays?
On les fait jouer dans un autre pays. Mais de tout.
Après,
il pourrait y avoir d'autres supporters. Oui, tu fais jouer les Turcs, tu les fais jouer en Allemagne, tu les fais jouer en France, il y aura un public,
Tu les mets ailleurs, tu les mets vraiment dans un pays.
D'accord.
Tu les sanctionnes aussi financièrement d'aller ailleurs.
En plus, voilà. Oui, tu peux rajouter des amendes.
Mais il faut arrêter l'histoire de la prévention.
Non, mais c'est ce que je dis.
Il a raison, Gilles, à un moment donné, c'est au niveau des textes que ça se joue, quoi.
Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas les avertissements, ça fait un bout de temps.
On les enchaîne et.
Voilà. Donc voilà, ça s'enchaîne. Maintenant, sanctionner les équipes, que ce soit des clubs ou que ce soit, enfin, les footballeurs, parce qu'en plus, les footballeurs qui sont sur le terrain, en général, je dis bien en général, il n'y a pas de racisme dans le foot. Ça existe, on ne va pas être naïf.
Vous voulez dire au sein des clubs, des vestiaires?
Oui, bah voilà, je veux dire, c'est peut-être en trouver un ou deux et tout, mais peu importe, je veux dire, les joueurs, ils jouent le jeu. Je veux dire, ils côtoient des footballeurs de tous les pays. Donc, les sanctionner, eux, bah, de 3 points, de 6 points, quand ça s'appelle. Dénaturer un peu la compétition, parce que c'est ce qui va arriver aussi. C'est que moi ça me pose problème. Mais par contre, au niveau des interdictions de stade les plus longues possibles, les huis clos, c'est un minimum. Et évidemment, les fédérations, faut les frapper aussi au portefeuille. Pour que on dise oui, il faut faire la prévention, mais là, faut qu'elle le fasse vraiment.
Alors justement, je vous donne la parole, Gilles, l'agence France Presse, encore elle, très à l'honneur dans cette émission, cite une source proche de la fédération bulgare. La Bulgarie est touchée au portefeuille car disputer un match à domicile à huis clos représente un manque à gagner supérieur à 200 000 euros pour elle. La sanction pécuniaire est lourde pour une fédération qui dispose d'un budget de 9 millions d'euros seulement, selon cette source. Et puis alors, sur le plan judiciaire, la police bulgare avait identifié 16 suspects, et elle a indiqué en avoir interpellé 11. 5 se sont vus infliger des amendes et une interdiction de stade. Voilà pour le factuel. Gilles Verdez.
Alors, il y a au sein des instances bulgares beaucoup de clémence, une volonté de ne pas régler le problème. Si on ne règle pas au niveau des instances, on s'en remet après au règlement de chaque pays. Et autant on le disait, l'Angleterre avait été féroce, autant la Bulgarie est extrêmement clémente. Ils en ont identifié 11, Chérif réclamait des interdictions longues. On va voir, mais je n'y crois pas du tout. Par ailleurs, le problème de ce que dit Chérif, c'est que vous dépendez des vidéosurveillances telles qu'elles sont. Il y a des pays où elles ne sont pas assez développées, vous pouvez pas identifier tout le monde. C'est pour ça que moi, je serais plus pour des mesures symboliques, retrait de points et amende massive, et éventuellement exclusion des équipes. C'est arrivé pour des affaires de corruption. On a exclu des pays, on a exclu des clubs. Pour des affaires de racisme, j'aimerais qu'on puisse exclure des pays et des clubs.
Inscrire,
en dernier ressort, pourquoi pas,
en
dernier ressort.
Inscrire dans les textes.
Ouais, pourquoi pas.
On rappelle que des incidents racistes, il n'y en a pas eu qu'en Bulgarie.
Non, bien sûr.
On pense évidemment à l'Italie, mais on pense à Koulibaly, on pense à Lukaku et cette explication un peu lunaire, surprenante des supporters de l'Inter Milan qui avaient parlé à la limite de quelque chose d'assez ancré finalement dans la culture italienne, de pas très grave.
Lamentable en tout cas. Mais ce qui est en plus d'une tristesse absolue, c'est qu'en Bulgarie, il y a beaucoup de joueurs africains. Il y en a de plus en plus en Bulgarie, en Roumanie, dans les pays de l'Europe de l'Est. Et il y en a beaucoup. Ils viennent là-bas, c'est souvent un tremplin. Ils s'en servent de rebond pour revenir après en Europe occidentale. Donc, c'est absolument pas normal que ça ait évolué comme ça. Et c'est pour ça que, vraiment, je pense que Gilles a mis le doigt sur le truc le plus important. C'est dans les textes qu'il faut l'inscrire. Et dans la charte, la loi, en fait, fondamentale du football européen, tout simplement dire, voilà, c'est là. Vous faites ça, vous êtes dehors. Point. Et là, la sanction, elle est terrible. Elle est sportive, elle est financière.
Heureusement, au football, il y a aussi des bonnes nouvelles, il y a des grandes nouvelles, et il y a encore le niveau au-dessus, les nouvelles de Samuel Eto'o. Ah oui, Eto'o, le meilleur. Pas besoin de le chanter, il le dit lui-même.
Les Congolais, les Camerounais, tout le monde les chante, même les Ivoiriens l'apprécient.
C'est un héros africain, un héros du football africain, panafricain. Samuel Eto'o fils, néo-retraité, il avait parlé à RFI début septembre, après l'annonce justement de sa retraite sportive, entretien exceptionnel accordé à Alain Foka, diffusé dans Radio Foot le 9 septembre, vous rendez sur les réseaux, sur notre site internet, et vous allez réécouter cette émission exceptionnelle. Nouvelle interview de la légende camerounaise dans un média français, publié aujourd'hui, l'agence France Presse. Il s'est particulièrement confié à Yacine Kiri, notre confrère, et il fait preuve de cohérence dans ses déclarations. Notre ami Samuel Eto'o. Question, meilleur joueur africain de l'histoire, plutôt, vous n'avez pas peur aussi de clamer que vous êtes le meilleur joueur africain de l'histoire? Réponse, je n'ai pas besoin de le dire, c'est un fait. Ce n'est pas George Weah, seul africain à avoir remporté le Ballon d'Or, ça c'est la relance. Et la réponse, j'ai beaucoup de respect pour tous ces aînés, mais nos carrières sont là et parlent pour chacun de nous. Il y a des débats qui ne servent à rien, je n'ai pas besoin de le revendiquer, c'est un fait, qu'on l'accepte ou pas, c'est un fait. Entre parenthèses, sourire. Voilà, c'est à peu près ce qu'il avait dit également à Alain Foka, rien de forcément nouveau. Il nous modestie. Étonne quand même toujours par sa modestie.
Son humilité, sa modestie, voilà, c'est pour ça qu'il a fait cette carrière, c'est ce que dit tout le monde. Mais Pour moi, quand on répète autant les choses, c'est qu'on n'en est pas sûr. S'il le disait pas, à la limite, on serait enclin à penser un petit peu comme lui, qui fait partie des plus grands, en tout cas de l'époque contemporaine. Mais le fait qu'il le répète à l'envi maintenant qu'il a la retraite, ça sert à quoi? Ça le dessert plutôt que ça le sert.
Le disait déjà avant.
Ouais, mais toi, il continue là. Maintenant qu'il s'est arrêté, alors on savait qu'il avait plus ou moins arrêté. Il était au Qatar et voilà, c'était la queue de la comète là-bas. Ouais. Mais là, et voilà, il le répète, il le dit là, il le dit là, il le dit là. Mmh. Nous, maintenant, on l'attend sur la suite. Est-ce que vous allez aborder ce qu'il dit dans la suite de l'entretien sur ce qu'il veut faire? C'est vrai qu'il l'avait dit sur RFI certainement.
Mais il parle de vouloir être entraîneur. Là aussi, il est me semble-t-il.
Il va falloir faire des choix parce qu'il est avec la CAF aussi. Il est un petit peu partout en ce moment. On le voit du côté de la FIFA, du côté de la CAF.
Il refuse l'engagement en politique.
Pour l'instant.
C'est pareil. Il reste sur la même ligne. Mais c'est autre chose qui le différencie de George Weah.
Mais revenons sur ça.
Allez-y. Vous n'étiez pas là en plus lors de l'émission consacrée à Eto'o début septembre.
Moi non plus.
On a hâte d'entendre de vos avis, messieurs.
J'aime bien Samuel Eto'o dans l'auto-proclamation. Je pense qu'il a raison. C'est pour moi le plus grand joueur africain de tous les temps. C'est au niveau du palmarès déjà. Puis il y a des choses emblématiques.
On peut le rappeler rapidement, hein, ce palmarès.
3 Ligues des Champions, de Cannes, 3 Ligues des Champions, et la médaille d'or.
Jeux Olympiques. Jeux Olympiques.
En 2000, à Sydney.
Les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est le meilleur attaquant. Alors, attaquant, avançant, buteur, peu importe. Hein. Bon, bref. Milieu des années 2000, il succède à Ronaldo le Brésilien. Et avant le Ronaldo Messi, il y a des années et tôt. Bon, après, il revient aussi en 2010 quand il gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. J'ai jamais vu de buteur aussi inattendu, aussi rusé, aussi instinctif, aussi décisif, aussi létal. Moi, c'est les coups de patte, il fait penser un peu à Romario, le grand.
Didier Drogba, non, il n'a pas fait ça.
Pardon?
Il n'a pas fait ça, Didier Drogba. Hein, avec sa sélection, avec ses clubs successifs.
Le palmarès parle pour lui, le palmarès parle.
Ah, mais tu parles de buteur. C'est vrai que t'as mis en avant d'abord le palmarès.
Alors, il y a aussi une chose.
On parle du joueur, là.
Il y a aussi une chose. Dans l'évolution des footballeurs africains prestigieux, il y a le premier qui marque. Bon, après, on les connaît. Bon, il y a eu les ancêtres, on va pas revenir dessus. Bon, le premier marquant, c'est Weah. Avec Eto'o, on passe une dimension supérieure. Là, vraiment, le joueur africain, il est talentueux, il gagne des titres, il fait gagner des titres, et des titres qui pèsent. Et ensuite, après, bon, il y a la génération de Salah, Mané, et puis évidemment Drogba, mais on est dans les années 2010. Mais il y a une évolution, il s'inscrit dans cette évolution, et pour moi...
Mais c'est la même génération.
C'est pour moi les plus marquants.
C'est pour tout ce qu'a dit Chérif avec brio, qu'Eto'o n'est pas le meilleur. Parce qu'Eto'o n'est qu'un joueur, c'est ça son problème. Et c'est pour ça que dans toutes ses interviews, il dit « je suis le meilleur ». Joueur. Et pour être le plus grand, vous ne devez pas être qu'un joueur. Pourquoi c'est Georges Weah le numéro un des footballeurs africains de tous les temps? Parce qu'il est plus qu'un joueur. Il a été un symbole. Premier ballon d'or africain. Le noir qui gagne, qui triomphe. C'était très important. Parce qu'il est devenu président. Pour tout ce qu'il a fait, c'est Weah le meilleur parce que il incarne le présent et l'avenir. Donc Weah, pour sa force de symbole, pour tout ce qu'il a été, pour ses engagements, pour ce qu'il a fait au Liberia, Weah, c'est le meilleur, c'est
on
le
peut
plus
pas
grand.
Faire plus.
Et le deuxième, c'est pas non plus Eto'o pour moi. Le deuxième, c'est Roger Milla. Pourquoi? Parce qu'il a été meilleur joueur africain en 76, puis en 90, puis en 94, le plus vieux joueur à marquer en Coupe du Monde, puis pour tout ce qu'il a fait. Donc face à ces symboles, avec son palmarès de rêve que décrivait Chérif, Eto'o, il est démuni. Et donc il est obligé de dire je suis le meilleur, parce qu'il n'est pas le meilleur, il est juste sur le podium.
Alors il a quand même mené deux années consécutives, deux équipes différentes, au triplé.
Mais il a un palmarès fantastique.
Le dénominateur commun entre le Barça 2009 et l'Inter 2010, c'est Samuel Eto'o quand même.
Alors il y a le parcours du présent et de l'avenir. Alors l'avenir, on n'en sait rien. Ouais, maintenant on sait qu'il a réussi dans la politique. Eto'o, pour l'instant, l'avenir, on ne le sait pas, parce que son avenir commence maintenant, d'après joueur. Mais... il a fallu quand même une force de caractère quand on connaît son parcours. À Paris, il était quasiment SDF. Il a comment
souviens-toi de Georges Weah. Tu crois que sa vie était meilleure?
Non, mais
enfin, je veux dire,
ils sont méritants.
Va à Gibraltar du côté de Monrovia.
Ils sont méritants tous les deux. Ils sont méritants tous les deux. Ah oui, quand même. Il y a un parcours avec Eto'o.
On te dit pas le contraire.
J'ai pas dit le contraire.
On dit pas le contraire. Bien sûr qu'on en tient compte. Mais affirmer comme clamer comme il le fait là et régulièrement. Je suis même étonné qu'il dise pas je suis le meilleur au monde. Il dit juste le meilleur africain. Franchement, là, c'est étonnant de sa part. Voilà. Mais il l'a pas dit à France Football, il est fâché contre nous parce que on lui aurait pas donné le ballon d'or France Football, le grand ballon d'or, celui que son grand frère Weah a eu. Ouais, mais les votants n'ont pas voté pour lui. Ça veut pas dire qu'il n'a pas été à ce moment-là le meilleur sur une année ou une saison.
Ça nous ramène un peu au début de l'émission. Le ballon d'or 2006, c'est vrai qu'il était même pas sur le podium dans mes
Oui, il a un problème, c'est que effectivement, il a une carrière exceptionnelle, il a pas fait une année où il a tout entre guillemets détruit sur son passage, où il a été le meilleur de tous les meilleurs. Alors que l'année où Weah est ballon d'or, il marque des buts de rêve, c'est incontestable, il est meilleur joueur FIFA, il a tout. Eto'o n'a pas fait une année où vous vous êtes dit cette année forcément c'est lui. Il a une longévité.
2009 avant de rejoindre l'Inter. Effectivement les mois
mais
qui suivent sont
mais il y a Messi
oui. Voilà. Ouais, il y a Messi, mais il fait quand même il est le premier à marquer en finale, je vous rappelle, contre Man United, il me semble.
Oui, tout à fait.
Donc il fait quand même une belle année, une belle saison, sauf que
dans les finales aussi en 2006.
Ouais, et sauf que comment quand il bascule du côté de l'Inter, là c'est plus le Eto'o qui est le roi un petit peu au Barça, on l'exile sur un côté, c'est plus le même mec.
Ouais, ouais.
Il a, je pense qu'il perd des points très importants à ce moment-là.
Mais sur la durée, sur quelques saisons, pour moi, c'était le meilleur attaquant buteur avançant.
Oui,
voilà,
oui.
D'un point de vue générique.
404 buts, c'est un joueur formidable, extraordinaire.
404 buts.
Et puis 2006, il marque aussi en finale, contre Arsenal. Mais il ne joue pas la Coupe du Monde. Et à l'époque, il faut jouer la Coupe du Monde pour gagner le le Ballon d'Or. Quand même la gagner. C'était une autre époque.
Tu es primé quand tu l'as.
C'était une autre époque.
Ouais. Cannavaro 2006, Cannavaro, yeah. Coupe du Monde.
Vous y croyez, entraîneur dans un style plus Guardiola que Mourinho.
Il était entraîneur, il me semble, quand il était du côté de Konyaspor. Je crois qu'il a été entraîneur intérimaire, certes, entraîneur-joueur, il me semble 5 matchs.
On va dire véritablement dans un rôle.
Dans les fêtes, c'était lui, il était sur le terrain. Il a fallu à un moment donné, il y a eu un vide, ils ont viré le coach et à Konyaspor, il me semble, ils ont dit
Est-ce que ça vous a convaincu?
Non, mais ça m'avait un peu choqué parce qu'à ce moment-là, il était encore bien, il a marqué une vingtaine de buts et tout. C'était bizarre de le retrouver. Il n'est pas diplômé, il n'a pas de formation, mais il a pour lui tout ce bagage de joueur exceptionnel et il a réussi à faire la transition et à préparer la suite.
Il compte passer ses diplômes.
Oui, heureusement.
Ce qui va être très dur pour lui avec son ego qui a fait sa force, hein, qui a c'est constitué ça. Ça va être de se retrouver ou de porter au firmament d'autres joueurs parce qu'il va largement détecter leurs faiblesses.
D'abord se mettre à leur niveau.
Et ensuite,
faut les faire remonter.
Ça nous fait penser à Thierry Henry.
C'est pas facile.
C'est jamais facile.
Je connais bien Cruyff a su, mais pour les très grands, Beckenbauer a su un peu. Pour les très très grands, c'est pas facile. Parce que vous vous dites, mais voilà.
On va pas présumer, on sait pas jouer. On souhaite effectivement qu'il trouve de l'humilité nécessaire pour devenir l'entraîneur. Il peut être effectivement, pourquoi pas, un grand entraîneur, on ne sait pas encore, mais voilà, il est tellement haut et il va diriger que de simples humains a priori. Hein. Lui est un extraterrestre du football.
En tout cas, c'est une page qui s'est tournée, une drôle de page. C'est pour ça aussi qu'on est ravi de l'entendre, de le lire, Samuel.
Toujours.
Rien à rajouter sur ça, avec Cruyff, on a oublié Zidane aussi.
Parmi les très grands joueurs qui ont su après se mettre au niveau des autres moins talentueux qu'eux pour leur transmettre.
Bon, c'est pas facile. C'était un bon joueur, non?
Oui, mais
c'était pas le même niveau.
C'était le dépositaire du jeu, mais individuellement, il n'avait pas le talent pur que Zidane ou Cruyff ont pu avoir.
Maradona n'y est pas parvenu. Ça les rend malades. Un joueur qui ne sait pas faire un contrôle en pleine course, ça les rend malades.
Voilà.
Il faudra qu'il joue les pédagogues maintenant. Samuel Eto'o, pas simple.
Maradona qui fête son 59e anniversaire aujourd'hui. Donc on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire, Diego Armando.
Feliz cumpleaños.
Voilà, petit cours d'espagnol gratuit dans Radio Foot. Il nous reste vraiment quelques secondes. Et alors, il y avait une actualité que je pensais aborder avec vous très 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 rapidement. Alors ce sera pour Sheriff Gaymour, malheureusement, parce que c'est un peu le spécialiste de la question. Ce championnat, cette ligue commune Belgique-Pays-Bas, on en est où? Il y a une nouvelle information. La Fédération de football des Pays-Bas a mis fin aux spéculations sur la création, donc dans les 3 ans à venir, d'un championnat réunissant clubs belges et néerlandais, mais nous dit-on également dans cet article de l'équipe, les parties prenantes ont jugé qu'il y avait matière à passer à une deuxième phase de l'étude. C'est la fédération néerlandaise qui le fait savoir, donc pas pour l'instant, mais à l'avenir, pourquoi pas.
C'est le vieux serpent de mer, ça paraît sur le papier comme une nécessité, parce que ces deux championnats qui se sont considérablement affaiblis, et en plus...
Ça existe chez les filles, il me semble.
Oui. Et attends, ça s'est fait ou c'était sur le point de se faire?
Non, ça existait chez les filles.
Ouais.
Belge et néerlandaise.
Et après, le truc, le problème, c'est d'abord, il y a une première division entre guillemets. Combien de clubs? Est-ce qu'on respecte la parité 8-8 et ceci, cela? Et deuxièmement, pour les Coupes d'Europe, comment on fait? Pour les Coupes d'Europe, comment on fait?
Voilà, c'était les 30 dernières secondes pour Jérémy Gaymour. Et la question, le mystère reste entier.
Si on a 4 clubs néerlandais aux 4 premières places du championnat, que deviennent les clubs belges? Ils n'ont plus accès aux Coupes d'Europe.
À méditer. Merci Sheriff Gaymour. Merci Gilles Verdez. Merci Franck Simon. Radio Foot revient demain. Soyez là. Littérature sans frontières.